un sosie. Dès que le FBI guette ma black mafia, m'accuse de vouloir péter la tête du traître. Me voilà fugitif, vite, je prends mon fusil, vise. J'attends quelqu'un de témoin, qui sait. On me répond,
c'est pour un emploi, je me présente. On me dit que l'homme a tué, c'est Oxmo, du 20-1. Le black mafiosi, Poutine au monde, voisin du crime, chef des casinos. Il me semble que c'est urgent ce soir, on verra les urgences. Le contrat est sur toi, Pout, il faut qu'on s'organise. Faire flipper la firme, quelle balise, qu'on se verbalise. Piège la valise du boss, dynamite sa caisse. Réunis la tête et pour les décalés, on sait déjà.
Oh écoute Booba, je sais au flou Palouza, c'est la coupe douce. Si t'as l'aine cruiser, pousse bien, on est là-bas pour 12 heures. Toc toc toc, salut Blue Palouza, sale schnock. T'as bien raison de flipper, j't'ai retrouvé chez équipe de mon clock. Le macaque me sort son magnum, ne blague pas, me nomme le magmor, me braque et ne me moque pas. Touché au bras gauche, fausse blessure. J'mets un coup de pied dans la crosse et sans l'insurin de ma chaussure. J'lui fous un coup de couteau sous son cou, tout son juice cool jusqu'à son poumon, ça c'était pour mon crew. Enfoiré, tu croyais que t'allais me tuer, mais tu es fou quoi. Autant évacuer la Chine en une nuit. Et puis, je veux pas te tuer, non. Dis pas merci, Booba, tu cette merde puante. Qu'on se casse d'ici, j'entends.
Les sirènes,
c'est les keufs.
Oublie les keufs, Boots, prends ton pouce, cache-le dans ta main, ce gros
blouson.
Passe-moi le blouson.
Lâche la cocaïne ou chiotte.
Démarre la Jeep, on se casse loin d'ici. Oxmo, Pizzino.
Ma foire et ma race, zombie. C'est même plus moi quand je me regarde dans la glace. Je vis seul dans une cabane là où je parle à mon flash. Je jouais au golf entre cailloux et bouse de vache. Quand je vis ce cabron piloté par une bande de blacks. Talons en cuisse, en poudre de rouge glace. Elle me demande c'est toi ou le chien et le rappeur la Zéza. Je lui dis, je m'étais rangé que j'ai enterré mon mic. Elle me sort une enveloppe de dollars, elle me dit son boss veut qu'on jacque. Me voilà dans une affaire louche et pleine d'angoisse. À table avec le boss, patron d'une putain de bête de boîte. Le gars me demande que tu écrives un texte rap. J'ai une minute, une bitch qui me suce et un gorille qui me braque. Sous la pression, un texte ouf, j'ai le gratte. Une scène qui m'éclate, est-ce que t'as reconnu cette scène de
pantin?
Moi j'aime les guns, les courses poursuivent dans la ville. Explosion, rafale de balles, tu vois les putains trucs de
pantin.
Quand tu crois connaître le tueur, c'est pas lui mais c'était l'autre. Le suspense qui donne un putain truc de
pantin.
Y'a que dans les films que j'aime les keufs. Quand ils veulent venger leur coéquipier puté par une caille, un truc de
pantin.
Après que j'ai apprécié un film, je mets stop et je rembobine. Et je me dis merde, putain quel film de
pantin.
J'étais avec mon pote Black Vénère, on avait soif. C'était l'été en galère et il était 2 ou 3 heures du mat. Enfile à l'épicerie du coin, direct face. Et prendre un truc frais à boire et à la caisse, c'était un ouache. Dis qu'il veut pas d'histoire, prenez et payez cash. Mon pote et moi, on était ma chelou attitude dans la démarche.
Chien.
Sa femme nous suivait, voulait pas nous lâcher la grappe. Me souviens plus de ce que j'ai pris, un Sprite, un Sunny Delight. J'avais trop soif, commence à boire, le gars éclate. Pète de plomb, parle dans sa barbe, même injure, il est blague. Pas de dick, on la joue fine et on s'arrache. On passe à la caisse, reste pépère et on paye cash. Et on part, devine ce que me dit ce fils de lâche. Alors t'es parti pour un clash. J'ai pris le gun, j'ai tête de deux comme un papa.
Allez-vous-en, je te passe
une
fois.
Putain, quelle scène de pantin. Moi j'aime les guns, les courses poursuivent dans la ville. Explosion, rafale de balles, tu vois les putains trucs de
pantin.
Quand tu crois connaître le tueur, c'est pas lui mais c'était l'autre. Le suspense qui donne un putain truc de
pantin.
Y'a que dans les films que j'aime les keufs. Quand ils veulent venger leur coéquipier puté par une caille, un truc de
pantin.
Après que j'ai apprécié un film, je mets stop et je rembobine. Et je me dis merde, putain quel film de
pantin.
Dans cette scène, je suis un boxeur avec un punch underground. On veut me graisser la passe, donc il faut que je tombe au cinquième round. Je fais le deal avec un guide, le joueur qui blague pas. Il me refile mon enveloppe et me précise mec, ne te rate pas. Je m'en bats les noms en vrai, j'ai tout misé sur WAM. J'ai gagné un filet dans un motel où m'attendait ma femme. Donc je vérifie s'il a tout pris qu'on puisse quitter la ville.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste, 89.4. Longtemps je me suis couché de bonne heure, Francis Gavel, au micro. Au départ, qu'est-ce qui donne envie d'aller vers un disque plutôt qu'un autre ? Parfois, comme ici, ça peut être un titre d'album, en l'occurrence California Dreaming. D'abord parce que, inévitablement, on songe à l'hymne californien par excellence, 60s à souhait dans son mix pop et psychédélique, mélancolique et joyeux avec sa façon de rêver du soleil de la Californie alors que l'on se balade sous des ciels grisâtres. Au passage, on notera que le morceau écouté en début d'émission est l'ouverture du film de Damien Chazelle, La La Land, et qu'il s'intitule Another Day of Sun, soit une référence évidente au soleil de plomb et au ciel bleu azur de la Cité des Anges. Ensuite, parce qu'on remarque sur la pochette du disque le nom d'un certain Bruno Fontaine, un compositeur et un pianiste dont on a eu de cesse d'apprécier l'extrême finesse du travail musical dans le film d'Alain Resnais, On connaît la chanson. Cette manière, en quelques notes d'orchestre, de lier, entre autres, les entrées ou sorties de chansons de France Gall, Jacques Birkin ou Henri Gara, citées en extrait dans la bande-son du long métrage. Au passage encore, précisons qu'ici, Bruno Fontaine, fidèle à son travail d'orfèvre, a réarrangé pour orchestre de chambre des partitions pour orchestre symphonique et a fait ainsi le choix du détail sonore plutôt que de la masse sonore. Alors, après toutes ces accroches prometteuses, venons-en maintenant au fait et découvrons enfin le nom de celui qui est au centre du disque. Je veux nommer Julien Baudiment, flûtiste de formation classique, actuellement au pupitre de l'Orchestre de l'Opéra National de Lyon et auparavant, deux années durant, première flûte solo du Los Angeles Philharmonic, dirigée par Gustavo Dudamel. Le rêve californien dont il est question ici est donc le sien, mais également celui de nombreux musiciens prestigieux qui, tout au long de la première moitié du XXe siècle, ont un jour foulé cette terre d'espoir professionnel, trouvé du travail à Hollywood et personnel, revivre après avoir fui les persécutions nazies. C'est donc un hommage musical et cinéphile que Julien Baudiment rend aussi bien à Igor Stravinsky et Darius Milhaud qu'à Franz Wasmann, le compositeur par excellence de l'âge d'or des studios. Mais d'autres artistes viennent de fait compléter ce programme, Henry Mancini, John Williams ou encore Hans Eisler, dont nous écouterons en toute fin d'émission dit « I'm Care », une mélodie pour chanteur baryton issue de son Hollywood Songbook et composée entre 1942 et 1943. Transposé ici pour flûte, ce lead évoque le retour démuni d'un exilé dans sa ville natale sous les bombardements et les incendies. Triste résonance contemporaine. Une évocation que prolonge l'existence de Eisler qui, proche de Bertolt Brecht, fut tour à tour persécuté par les nazis qui le considéraient comme un compositeur de musique dégénérée, puis par le FBI qui l'accusait d'être le Karl Marx de la musique, son frère aîné étant un influent dirigeant communiste, et enfin par la censure est-allemande qui remit en cause sa loyauté politique à la suite de l'écriture de Faust, un opéra à la facture trop moderne puisque sans musique. Mais tentons de finir cette chronique du California Dreaming de Julien Baudiment sur une note plus alerte, en songeant que pour ce rendez-vous d'octobre de notre table ronde des sorties salles, et tandis qu'un autre souffleur, après la flûte, le saxophone, sera tout à l'heure au menu de nos échanges, ce sont finalement les musiciens qui nous emmènent au cinéma. Bonjour Thomas Fouet.
Bonjour Francis Gavel, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette deuxième émission de la saison. Je suis venu pour commencer avec une petite citation que je vous lis. Il ne faut pas multiplier les êtres sans nécessité, dit un proverbe philosophique, mais il convient d'aller au-devant des exigences de la vie. Une nouvelle littérature, une nouvelle critique, celle du cinématographe, sont maintenant indispensables. L'industrie, qui parfois profite des arts, contrairement à tout ce qui se clame ici et là, a chargé de vitalité le cinématographe, le sauvant du danger de périr oublié comme un nouveau passe-temps fugitif, tel fut le destin des ombres chinoises. Avec le dessein d'arriver un jour à définir à travers ce registre de la mimique une esthétique de la civilisation contemporaine, empressons-nous de suivre une à une les nouveautés cinématographiques du jour, en formulant au passage tel ou tel principe quand nous croirons l'avoir découvert. Par ailleurs, tout art produit des articles de commerce, objets d'achat et vente, et le public paie. Dans l'intérêt de ce dernier, il convient que le nouvel art cinématographique soit surveillé de près par la critique. Ces mots sont ceux d'Alfonso Reyes, ils ont été publiés en 1915 dans la revue Espania, fondée par un autre grand d'Espagne, José Ortega y Gasset. Le travail de la critique, sans cesse recommencé, sans cesse à justifier, cela m'a semblé d'actualité. Je voulais vous lire une citation un peu plus complète, mais on m'a volé le livre en chemin vers la radio. Voler un livre de cinéma, quelle drôle d'idée. Mais je vous le dis, Abonnez-vous dès que possible aux Fiches du cinéma avant que l'époque ne s'en désabonne. À mes côtés, Margherita Gera et Simon Oaro de la rédaction des Fiches du cinéma. Bonjour Margherita.
Bonjour.
Bonjour Simon.
Bonjour Thomas.
Merci de vous joindre à moi pour cette traditionnelle table ronde, ce tour d'horizon des sorties en salle. Comme à son habitude, Francis participera au débat. Je le sais déjà tout excité à l'idée d'évoquer tout à l'heure le nouveau film de Mathieu Amalric. Mais chaque chose en son temps. Comme souvent, le programme est copieux. Et sans perdre de temps, commençons dans la joie et dans les convulsions de l'histoire avec Lost Country, le deuxième long-métrage de Vladimir Perisic, après Ordinary People en 2009, et qui était présenté cette année à la Semaine de la Critique, la meilleure adresse cannoise après le Petit Majestic, où il a remporté le prix Fondation Louis Roederer de la Révélation. Histoire de la perdition d'un pays et d'un adolescent tiraillé entre son amour pour sa mère et ses convictions éthiques, le deuxième film de Vladimir Perisic mêle avec une grande justesse le politique et l'intime. Ce sont tes mots, Margherita. Tu étais à Cannes cette année où tu as découvert et, on l'aura compris, beaucoup aimé le film. Quant à toi, Simon, tu as eu l'occasion d'interviewer le cinéaste. Un entretien préparé, je le précise, avec le concours de Margherita et de Gilles Tourment. J'en profite pour le saluer. Tu auras peut-être l'occasion de nous en dire un mot. Ce très bel entretien est à retrouver, évidemment, dans les pages des Fiches du cinéma. Le sujet du film en quelques mots, nous sommes donc en Yougoslavie en 1996. Stéphane, lycéen, vit seul avec sa mère, Marc Lena, porte-parole du gouvernement de Slobodan Milosevic, lequel, refusant de reconnaître sa défaite aux élections municipales, doit bientôt composer avec d'importantes manifestations étudiantes. Partagé entre l'amour qu'il porte à sa mère et sa compréhension progressive du rôle que joue celle-ci dans l'établissement d'un régime autoritaire, Stéphane se voit bientôt rejeté par ses camarades au casting Jovan Jinić et Josna Đurišić, et c'est d'ores et déjà en salle. Simon, Margherita, vous avez donc vu le film. Qui veut ouvrir les hostilités ?
Je t'en prie.
Margherita.
D'accord. Bah oui, Lost Country, c'était un peu mon coup de cœur de Cannes cette année. Et je trouve que j'étais vraiment touchée déjà par la performance de l'acteur principal, Jovan Jinić, que je trouve vraiment épatant. Et alors qu'il est un acteur non professionnel, il a repéré dans une équipe de waterpolo, parce que le protagoniste aussi, il joue waterpolo. Donc en fait, on ressent qu'il avait un besoin de la part du réalisateur de raconter son histoire et un peu de se retrouver dans ce personnage, dans ce garçon, pour revivre des faits qu'il a vécu lui-même, mais à travers une histoire de fiction. Et donc, et je trouve que c'est très intéressant le fait qu'il parle des révoltes, des manifestations. Mais on voit très peu, il y a très peu de scènes qui sont tournées dans les rues, au milieu de ces révoltes, alors que le point de vue est plutôt celui de ces garçons qui restent un peu enfermés dans son appartement. Et donc, il y a pas mal de scènes qui sont tournées dans cet appartement bourgeois où il habite avec sa mère, qui n'est pas tout le temps là, donc parfois elle part, parfois elle revient. Et leur relation est à la fois un peu glaciale, mais aussi avec des moments de tendresse. Donc on comprend l'attachement qu'il éprouve pour elle, et aussi le fait qu'il se retrouve face à un choix qui est impossible, c'est-à-dire choisir entre l'amour pour sa mère et ses convictions qui sont en train de naître, et aussi le fait de comprendre qu'elle est impliquée dans un crime. Je pense que, j'ai trouvé que sa façon de mêler justement l'histoire personnelle de ce garçon et l'histoire de la Serbie, en fait, était hyper intéressante et aussi inédite.
Simon.
Oui, je rejoins complètement Margherita. J'avais discuté aussi avec une amie journaliste qui était présente à Cannes et qui, elle, n'avait pas du tout aimé le film et qui lui reprochait un peu d'avoir fait un peu de ce choix, un peu de raconter une histoire un peu de manière obscure, un peu sombre. Pour elle, c'était un peu de la facilité en termes de questions de cinéma. Et moi, je trouve qu'au contraire, si on se plonge un peu plus dans les niveaux de lecture du film, je trouve que c'est un projet qui est extrêmement ambitieux parce que déjà très personnel. Et faire un film comme une thérapie, c'est jamais un exercice très facile, voire assez casse-gueule. Et je trouve que le réalisateur trouve ici une bonne distance, c'est-à-dire très très extérieur et en même temps très impliqué quand on connaît justement son histoire personnelle. Et je trouve ça assez fascinant, cette plongée progressive dans l'obscurité dont on devine assez vite la fin, mais on n'en est pas moins bouleversé quand elle arrive. Et il le présente, Vladimir Perisic présente ce film comme une tragédie grecque, et je trouve que c'est une, entre autres, une bonne définition du film, parce qu'effectivement il s'agit là de trahir non seulement sa famille, mais aussi une certaine idée de la patrie. Donc quand on est dans la peau d'un adolescent qui est déjà un âge assez compliqué, dans un pays où le contexte politique est compliqué, réussir à raconter ça en une heure et quelques, c'est assez ambitieux, et le résultat, moi, je le trouve très très réussi. Je rejoins Marietta aussi sur le jeu des acteurs qui est incroyable, et puis c'est le choix de mise en scène aussi qui comme ça paraît peut-être anecdotique, mais c'est filmer la révolution dans l'intérieur d'un appartement à travers une porte entrebâillée, ou juste dans le contexte même domestique, en fait. Je trouve ça extrêmement, extrêmement fort, comme tu disais, Margherita. C'est la facilité, ça aurait été d'être dans la rue pendant tout le film, d'être au cœur des manifestations et de la révolte. Et là, non, en fait, on l'observe très souvent en haut d'une fenêtre. Moi, je trouve que c'est un parti pris qui est assez fort, voire assez courageux.
Oui, Francis.
Oui, et je n'ai pas vu le film, et je m'en excuse, mais pour cette émission, j'ai noté quelques avant-premières, en fait. Et j'ai noté Close Country, en
Excellente
fait.
Excellente initiative.
Voilà, on pourrait le voir. En plus, ces avant-premières qui sont juste dans la continuité pratiquement de l'émission. Donc, autant peut-être en profiter pour nos auditeurs et auditrices. En fait, Close Country donc, va être présenté en présence de son réalisateur au cinéma Le Méliès à Montreuil, lundi 30. Ce sera à 20h15. Donc, si vous voulez entendre effectivement le réalisateur parler de son film, et puis surtout le voir après les deux critiques quand même dithyrambiques qu'on vient d'entendre, je pense que c'est une bonne occasion.
Je te remercie, Francis. Lost Country de Vladimir Perisic, c'est donc d'ores et déjà en salle. Et parlons à présent d'un autre pays perdu, mais ne le sont-ils pas tous? Fermez les yeux de Victor Erice, c'est 2h29. N'attendez pas trop de la fin du monde, Radouillou, 2h43. Les herbes sèches, Nuri Bilge Ceylan, 3h17. Quand les vagues se retirent, Lavdias, 3h20. Et désormais, Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese, 3h26 au compteur. C'est une année de long format, nous le vérifierons encore tout à l'heure. Une durée comparable au précédent film de l'auteur, The Irishman, qui, voici déjà 4 ans, n'avait pas eu en France les honneurs d'une sortie en salle. Coproduit par les studios Apple, Killers of the Flower Moon est en revanche à découvrir d'ores et déjà au cinéma. Le sujet en quelques mots de cette adaptation de l'ouvrage de David Grann. Oklahoma, début des années 20, nous sommes dans le comté d'Osage, où vit la communauté native américaine du même nom. D'importantes ressources de pétrole ont été découvertes dans les sous-sols de leurs terres, placées sous la tutelle des Blancs, auprès de qui ils doivent justifier de leurs dépenses. Les Osages n'en sont pas moins devenus l'une des communautés les plus riches des États-Unis. C'est dans ce contexte qu'Ernest Hale, vétéran de la Première Guerre mondiale, rentre au pays et s'en va trouver son oncle, puissant notable du coin, qui le prend sous son aile et lui offre un travail de chauffeur. Ernest rencontre Molly Burkhart, dont la famille est devenue l'une des plus riches de l'État. Sur les conseils de son oncle, dont on comprend bientôt qu'il entend faire main basse sur cette manne financière, mais aussi parce qu'il en est tombé amoureux, Ernest la demande en mariage. Quelques temps plus tard, l'une des sœurs de Molly meurt assassinée, je n'en dis pas plus. Dans les fiches du cinéma, Michael Ghanem estime que Scorsese offre ici à DiCaprio l'un de ses rôles les plus beaux et complexes, nous en parlerons, celui d'un homme pleutre, dépourvu d'assurance et d'amour propre, dont la seule qualité est d'aimer profondément sa femme, tout en déplorant par ailleurs que, comme dit Irishman, Killers of the Flower Moon souffre, malgré sa densité, d'une forme trop imposante. Oserais-je, quant à moi, vous confier l'émotion qui fut la mienne quand, après 3h20 de film, et au terme de ce qui est probablement, à mon sens tout du moins, l'une des plus belles séquences du cinéma de Scorsese, je vis apparaître celui-ci en personne à l'écran pour quelques mots de conclusion qui me parurent être également un hommage, une oraison funèbre et une lettre d'excuse au peuple natif américain, libre à chacun de voir dans le film la continuation d'une histoire états-unienne du XXe siècle, de Killers of the Flower Moon au Loup de Wall Street en passant par Casino, par exemple, autant dire des terres spoliées des natifs américain à Wall Street des années 80, en passant par Las Vegas, paradis bâti par la mafia dans le désert du Nevada. D'où vient l'argent et dans quelle direction coule-t-il? À l'affiche donc, je le disais à l'instant, Leonardo DiCaprio, Robert De Niro et la merveilleuse Lily Gladstone, protagoniste d'ores et déjà de ce qui est pour moi l'un des plus beaux films états-uniens de ces 15 dernières années, Certaines femmes de Kelly Reichardt en l'occurrence. Je n'ai déjà que trop parlé, Killers of the Flower Moon, c'est d'ores et déjà en salle, et je vous donne la parole. Francis, tu as vu le film?
Oui, tout à fait. Et pour une fois, c'est un film que j'ai vu en salle. Et c'est un film, quand je dis en salle, je veux dire avec du public. Voilà.
Avec des semblables.
Avec des semblables et non pas avec des critiques de cinéma.
Voilà.
C'est très différent, je n'en reviens pas. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que c'est un film que j'ai avant tout découvert par sa bande-annonce. En allant voir d'autres films, évidemment, la bande-annonce était présentée. Et la bande-annonce que je trouvais alors fascinante, ce qui arrive rarement, mais... laissait supposer un film comme ça très, très tumultueux, très épique, un peu à la manière, on n'en a pas encore parlé, mais un peu à la manière de Gangs of New York. Et en fait, le film est, à mon sens, pas du tout ça. C'est au contraire quelque chose de beaucoup plus, comment dire, c'est de beaucoup plus retorde, c'est un film beaucoup plus intimiste qu'il n'y paraît, parce qu'on est face à une spoliation finalement sourde, un accaparement via le mariage et via, au bout d'un moment, la disparition des femmes Osage mariées à des hommes blancs, soit de manière douce, on va dire, c'est-à-dire un empoisonnement, soit de manière plus violente, comme une explosion de maison, un attentat, enfin... Et donc j'ai été très très surpris de cette en fait de ce style et de cette ligne que choisit Scorsese. Et donc le film, voilà, alors en même temps démarre effectivement de manière très épique quand même, puisque il montre, et c'est ce qui est assez fabuleux dans le film de Scorsese, c'est que tout le début montre en fait pourquoi il va y avoir cette espèce de spoliation sourde, parce que le film montre très très bien, je trouve, le ressentiment des Blancs. Parce que d'un seul coup, voilà, on peut préciser que les Osage, effectivement, comme tu le disais un petit peu, étaient sur une terre que tout le monde considérait, en tout cas le gouvernement américain de l'époque, comme un caillou aride sur lequel il se passerait rien. Et les Osage avaient réussi à faire en sorte que on puisse considérer que tout ce qui sortirait de ces terres leur appartiennent et donc doivent leur être rétribués d'une manière ou d'une autre. Et donc, d'un seul coup, le pétrole arrive, ce qui est d'ailleurs dans le film de Scorsese une image fabuleuse au ralenti avec ce geyser de pétrole et ces Indiens qui dansent en dessous. Enfin, c'est un moment sublime. Et donc, d'un seul coup, ils deviennent des capitalistes alors que, normalement, ils devraient rester des indigènes. Et donc, l'ordre des valeurs et l'ordre de domination est inversé. Ils ont des chauffeurs, des babysitters, et on sent, je trouve que le film de Scorsese le fait énormément bien ressortir dans sa première partie, tout ce ressentiment de la population blanche. Et c'est amusant parce que en ce moment, là va sortir la semaine prochaine un documentaire qui s'appelle Un pont au-dessus de l'océan de Francis Fourcoux. Alors, le documentaire évidemment s'intéresse aux Osage, mais s'intéresse aussi aux Occidentaux et les rapprochements qu'il y a pu y avoir entre les deux peuples, liés entre eux par une langue qui disparaît, une spoliation. Mais ce qui est intéressant dans le film, c'est que le film revient évidemment sur l'histoire des Osage et, entre autres, à un moment, sur le documentaire sur le film de Scorsese, pardon, et ce que tu disais très justement à la fin, c'est ces mots d'excuse de Scorsese par rapport à la population indienne. Le film explique effectivement que Scorsese est arrivé avec une attitude très humble par rapport à eux, et il les a vraiment pris dans le film, pris avec eux, et d'ailleurs jusqu'à, puisque c'est l'anecdote qui circule un peu, jusqu'à réécrire le scénario, en faisant moins une enquête du FBI, mais un film basé sur les Osage. Et il y a une chose très très drôle, c'est pas le mot, mais pertinente qu'on apprend dans le film de Francis Fourcoux, c'est qu'en fait la réserve Osage, à une époque, a été considérée comme l'Arabie Saoudite des États-Unis. Et du coup, ça donne un petit peu l'importance de ce que ça a pu représenter, et surtout l'importance de cette vengeance blanche sur une population indienne.
Margarita, Simon.
Simon. J'ai été complètement épaté par ce film, et des fois je m'en veux de presque oublier parfois que Martin Scorsese, à quel point son cinéma est important, comme sa production s'est espacée d'année en année. Donc c'est vrai que de redécouvrir son cinéma en salle, comme tu disais, Francis, c'est une émotion très très forte, et je rebondis juste sur la question du long format. Effectivement, c'est une année avec beaucoup de longs formats, et le film dure 3h26, et pour moi, il n'y a pas une minute ou un plan qui est de trop dans ce film, et c'est une véritable prouesse. Je trouve la manière qu'il a de raconter cette espèce de prédation, de dévoration d'un peuple par un autre, pareil encore une fois sur un plan domestique et communautaire, je trouve ça très intelligent, extrêmement bien fait en termes d'ambiance sonore, d'écriture, de la manière de poser sa caméra. Je trouve que ces choix sont extrêmement intelligents parce qu'effectivement, tu disais, Francis, que l'écriture du film a changé en cours de pré-production, et notamment le personnage de Leonardo DiCaprio qui devait à la base interpréter le rôle du détective privé qui est joué finalement par
Jesse
Plemons. Je sais que c'est un choix qui a fait un peu débat à l'époque parce que le protagoniste principal est un personnage blanc, alors que le film parle justement du massacre des Osage, et je trouve ça assez intelligent d'aussi questionner la part du coupable et la part du bourreau, et notamment de donner une importance à ces Américains qui ont organisé une sorte de home invasion un peu insidieux, et c'est très très émouvant parce que le film pose sa caméra, pose son regard du côté des victimes, mais en parallèle aussi rappelle l'importance qu'il faut aussi pouvoir regarder le coupable en face. Le coupable, très souvent, c'est nous-mêmes, je veux dire le peuple, les Américains. Et ce qui est assez fascinant, c'est, je suis d'accord avec toi Thomas, c'est qu'il y a deux très belles fins dans ce film, celle où il se met en scène qui est extrêmement bouleversante, puis il revient et il met une dernière image sur une cérémonie au Osage, et je pense qu'en fait juste dans ces 10 dernières minutes tout est dit en fait sur l'importance de traiter de cette histoire et de la traiter de cette manière précisément.
Margarita.
Bah oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, dans le sens que pour moi aussi chaque minute de ce film est essentielle, et je pense qu'on ressent aussi le travail qu'il a fait avec cette tribu. Donc c'est pas un film sur eux, enfin c'est un film fait avec eux, même si évidemment le point de vue c'est aussi celui d'un Américain, et du coup je trouve très, très intéressant aussi de ce personnage de Ernest qui est très ambigu, enfin il est très complexe je trouve, et parce que en même temps il est soumis à son oncle, mais il éprouve un amour qui est aussi qui est vrai pour cette femme, donc et il se rend même pas compte qu'il est en train de la tuer, enfin de l'empoisonner, et donc voilà, enfin je trouve que justement il pouvait y avoir un point de vue plus enfin d'enquête de justement l'FBI qui arrive à la fin et qui sauve la tribu, alors que c'est pas du tout ça, enfin finalement il n'y a pas vraiment de, enfin quand le personnage d'Ernest il se trouve devant un choix, en fait, c'est pas un choix, c'est juste que il doit être, il est responsable de ce qu'il a fait, et il n'y a pas vraiment d'issue pour. Et du coup, en fait, je trouve aussi assez touchant le fait que Scorsese, il a voulu s'impliquer jusqu'au point de se mettre en scène lui-même. Et parce que c'était encore une fois une façon de vouloir souligner la vérité. Et du coup, j'ai trouvé ces finales aussi assez bouleversants. Et après, évidemment, il y a plein d'idées de mise en scène, de narration que je trouve absolument incroyables. Et donc, voilà, c'était, pour moi, c'est les chefs d'œuvre annoncés.
Et notamment, tu parlais des grands moments de mise en scène du film. Je garderai longtemps en mémoire une scène de fièvre et d'incendie mêlé, qui est une prouesse de mise en scène. Killers of the Flower Moon, c'est donc d'ores et déjà en salle. Et je vais vous proposer à présent que nous fassions une première courte pause musicale. On va se retrouver dans quelques instants. Vous allez voir que dans un premier temps, mais ce sera bref, je vous rassure d'ores et déjà, on va baisser quelque peu en intensité. Et puis on repartira dans les altitudes. Nous, on fait donc une petite pause et puis on se retrouve dans quelques instants.
The world with me, a girl with me, and I don't even really like pussy, that's a homie. Tony Island, call Poseidon. Cry me a river, you could cry me a metaphor. Megaphone screaming out, dream about revolution.
pollution, air pollution, same solution, socialism. They ain't really fucking with my niggas though. Off the grid, we just build a community garden. Off the grid, you could be a marshal around here, settle down here. We could love, chop it to the motherland and learn about what was. If the world don't budge, they ain't eat me out, sweetie. I wanna smile tonight. I only got one lap around the sun, and he going down tonight. Yeah, yeah, so maybe I'm going down too. Yo, maybe I'm going down too. Yo, I never need no man. I got a little bit of love and a couple of friends. Picture me rolling up the bud in the South Sudan. Yo, I never need no, no, no. Yo, I never need no man. I got a little bit of love and a couple of friends. Picture me rolling up the bud in the South Sudan. Yo, I never need no, no, no name. Glad you came. We can stand in the rain, maintain a good life. We can fight, play, tame. Same day the airstrike, strike down our rain. I ran into the house with a blunt in my hand. Let's smoke. I don't want to see death no more. Let's fight. They got the devil hiding in plain sight. That's you, that's me. The whole world is culpable. Why complacency float the boat the most? I don't really get it. Y'all ain't really with it. All that eat the rich, tax the rich. Y'all ain't really about that shit. Bitch, if you want some money, you can say that. You deserve to pay back. These niggas took everything. Let's go get that and take it to the hood, though. Share it with community. We soldiers in plain clothes. Everybody got their role. Don't be a op. Everybody got their role. I'ma play mine like Scooby-Doo in a haunted house. I see the ghosts that they talking about. I see the signs. Reading between the line at the crime scene. I ain't fucking with the NFL or Jay-Z. Propaganda for the military complex. The same gun that shot Lil Terry out west. The same gun that shot Samara in the West Bank. We all think the Super Bowl is the best thing. Go Rihanna, go. Watch the fighter jet fly high. War machine gets glamorized. We play the game, do pass the time. Go Beyonce, go. Watch the fighter jet fly high. War machine gets glamorized. We play the game, do pass the time. Go Kendrick, go. Watch the fighter jet fly high. War machine gets glamorized. We play the game, do pass the time. Go No Name, go. Coachella stage got sanitized. I said I wouldn't perform for them, and somehow I still fell in line. Fuck, I never need no name. I got a little bit of love in the memory lane. Picture me rolling up the blood. I don't play them games. Yo, I never need no, no. Never need no name. I got a little bit of love in the memory lane. Picture me rolling up the blood. I don't play them games, yo. I never need no, no, no.
De retour sur Radio Libertaire, vous écoutez longtemps, je me suis couché de bonne heure. Thomas Fou au micro en compagnie de Francis Gavel et de la rédaction des Fiches du Cinéma. J'ai nommé Margarita et Simon pour cette table ronde consacrée à l'actualité des sorties en salle. À l'instant, nous écoutions Namesake de No Name, cet extrait de son dernier album, Sundial. Sans transition, une année difficile, c'est le nouveau film d'Éric Toledano et Olivier Nakache. De quoi est-il question? Albert et Bruno, tous deux surendettés, font fortuitement la connaissance d'un groupe d'activistes écologistes et anticapitalistes. En prenant part aux actions de ces derniers, ils en profitent pour mettre un peu d'argent de côté. Mais les sentiments s'en mêlent car Albert s'est entiché de Valentine alias Cactus, l'une des meneuses du groupe. Éric Toledano et Olivier Nakache veulent nous dire quelque chose de l'époque, mais quoi au juste? Du reste, le savent-ils eux-mêmes? Le surendettement, la décroissance, le militantisme, l'avenir de la planète, le Covid, tout ça doit bien faire sens, mais lequel? Si par hasard il vous plaisait de les regarder chercher sans parvenir à la trouver deux heures durant à une question mal formulée, une réponse qui pourtant se trouvait tout du long sous leurs yeux, en bons macronistes qu'ils sont, alors ce film est pour vous. Au casting, on retrouve donc Pio Marmaille, Noémie Merlant et le cheat code de la comédie française, j'ai nommé Jonathan Cohen, et dans un second rôle, le toujours excellent Mathieu Amalric, dont tout à l'heure nous redirons plus qu'un mot. C'est en salle depuis le 18 octobre, mais peut-être avez-vous, autour de cette table, davantage aimé le film.
Silence, on dit
ça. Ça se bouscule au micro.
Bon, ok, allez.
Francis Gavel.
Allez, c'est d'accord. Je ne sais pas par quelle boule prendre.
Parce que c'est vrai.
Tu vois, parce que alors le. Il m'arrive parfois de faire des réponses aux attachés de presse quand ils me demandent ce que j'en pense, et j'avais mis une année difficile, deux points, un film difficile, point d'exclamation. Parce que je trouve qu'au point de départ, il y a une idée qui pourrait être intéressante, quoi, une idée contradictoire, des gens qui sont surendettés, donc des surconsommateurs, face à des gens, des militants écologistes, qui seraient plutôt dans une perspective de décroissance. Et je trouve que cette bonne idée de départ ne fonctionne jamais. Alors, pourquoi ça fonctionne jamais? Je pense que ça fonctionne jamais parce que d'abord, Toledano et Nakache, par le biais de leurs deux intercesseurs à l'écran, que sont les personnages surendettés, pas Toledano et Nakache, mais leurs personnages interprétés par Pio Marmaille et Jonathan Cohen, ont systématiquement un regard, alors à la fin non, parce qu'il y a quand même un twist de scénario, un regard un petit peu pas méprisants, mais trouvant qu'ils sont gentiment ridicules, tous ces militants écolos. Et je trouve que ce qui transparaît dans le film, c'est ce côté ridicule. Alors, des militants écologistes, hein, bien sûr. Alors, déjà, tu disais que, effectivement, Valentine, c'était Cactus. Donc, ils ont des noms pas possibles, complètement bizarres, et on comprend. Sauf qu'on comprend pas pourquoi. Ils ont des noms de code, alors que finalement, c'est pour dissimuler leur identité. Ça, jamais on en entend parler. Je dis pas qu'il faut tout expliquer dans un film. Mais parfois, c'est bien de montrer que les gens ne sont pas juste ridicules. Qu'ils mènent des actions. Bon, un peu farfelu, alors que bon, c'est quand même des actions de désobéissance civile, mais on sent pas forcément que c'est de la désobéissance. Et pourquoi on le sent pas? Dans un esprit de mise en scène, alors tu parlais de films macronistes, mais c'est vrai que dès qu'ils sont confrontés aux forces de l'ordre, les forces de l'ordre sont assez douces. En termes de mise en scène, en termes de jeu, comme si on disait aux figurants qui font les forces de l'ordre, abîmez pas quand même les figurants qui font les militants écolos, quoi. Donc on retient les coups, et puis parce qu'il faut pas faire non plus une image qui va faire peur au public, puisqu'on veut s'adresser au public le plus large possible. Donc déjà, eux sont ridicules. Ensuite, alors on parlait de Mathieu Amalric, là je vais oublier qu'il a joué dans ce film, mais les gens qui s'occupent donc d'aide aux surendettés sont eux aussi ridicules. Et donc le personnage de Mathieu Amalric, qui est un personnage secondaire, je précise, en fait est porté par le ridicule, parce que les bonnes considérations qu'il porte vers les gens qui sont dans le surendettement, lui-même n'est pas capable de les appliquer. Alors ça pourrait être très intéressant qu'il n'en soit pas capable, ça pourrait donner lieu à une réflexion. Non, ça donne juste lieu à un gag par deux fois dans le film, qui n'apporte rien, si ce n'est que c'est un gag, et que forcément, comme on est des magots, ça nous fait tous rire. Voilà. Et donc, je me suis interrogé sur une chose, c'est que dans Hors Normes, dans le souvenir que j'en avais, les membres de l'association, interprétés entre autres par Vincent Cassel et Reda Kateb, qui assistaient donc des adolescents en situation de handicap et de fragilité, n'étaient jamais considérés, finalement, à la différence, comme ridicules. Au contraire, on était avec eux. Et que, d'un seul coup, ces membres d'associations militantes, ben passant du statut de personnage principal à celui de personnage secondaire, devenaient des personnages dont on peut se moquer. Voilà. Et donc, on a une très belle communication de la part de Gaumont sur les réseaux sociaux, parce que quand même, il faut montrer qu'on s'est impliqué, même si au bout du compte, c'est ridicule, en nous disant que, ben, effectivement, les comédiens, les réalisateurs ont été en immersion avec Extinction Rébellion, pour le côté militant écolo, et puis avec une association que je connaissais pas qui s'appelle Crésus Île-de-France pour l'aide au surendettement. Donc tout ça, il faut le préciser, parce que évidemment on veut aussi aller vers un public jeune, pas juste des retraités, hein. Donc un public jeune et activiste qui s'inquiète de la suite et qui s'inquiète de l'avenir de la planète. Donc je trouve ça, et là je m'arrête là parce que j'ai encore plein d'autres trucs à dire, mais je trouve ça monstrueux.
Alors public jeune et activiste, hein. Mais mon Dieu, mais nous parlons de Margarita et Simon. Margarita.
Moi, j'ai pas vu le film.
Eh bien, tu en as de la chance.
Et c'est un geste politique dont je te félicite, Margarita. Oui. Simon.
Oui, je voudrais rebondir sur une phrase de Francis qui dit effectivement, c'est un film qui retient ses coups, et à force de retenir ses coups, je trouve qu'il se profile peu à peu une certaine malhonnêteté dans ce projet. Et c'est assez décevant, parce que jusqu'ici, moi, j'étais plutôt partisan. Enfin. En tout cas, je trouvais le cinéma de Toledano et Nakache plutôt sympathique, même si voilà, il y avait quelques travers un peu pervers qu'on pouvait deviner dans les derniers films. Et là, il y a quelque chose, il y a une bascule qui s'opère avec ce projet qui, moi, je trouve est complètement contre-productif, parce que à la fin du film, moi, je me suis demandé, je ne sais pas à qui profite finalement ce film, parce qu'il ne profite certainement pas aux activistes, parce qu'ils sont tournés en ridicule et pas d'une manière très bienveillante, parce qu'on peut faire preuve d'autodérision, bien sûr, mais là, c'est un peu à leur insu, moi, je trouve. Ça ne profite pas non plus aux deux protagonistes, une sorte de paumé un peu beauf, mais bon, un peu sympathique quand même, mais bon, je veux dire, c'est des personnages qu'on voit et qu'on ne cesse de revoir dans le cinéma. Et donc, il y a des portraits qui sont comme ça, compromis au fur et à mesure. Le film, finalement, je regrette que le film ne soit finalement pas assez méchant. Quitte à ridiculiser, quitte à partir dans une critique, dans quelque chose de satirique, autant y aller.
J'ai beaucoup pensé à Problemos, qui est un film qui ne fait pas rire tout le monde, et à juste titre, mais que moi je trouve très réussi, précisément parce qu'il a le courage d'être méchant et d'avoir un point de vue, ne serait-ce qu'un point de vue, ce que n'a pas le film de Toledano et Nakache.
C'est exactement ça, c'est un film qui refuse d'être méchant, comme disait Francis, de peur peut-être de perdre une partie du public ou une partie de l'opinion. Et c'est extrêmement c'est dommage parce que le sujet en soi est intéressant et en plus d'actualité. Et un jour j'ai eu le malheur d'allumer la télé, je suis tombé sur Quotidien et les réalisateurs étaient invités sur le plateau et avaient confié avoir montré le film à Extinction Rebellion qui avait adoré la manière dont ils avaient été représentés. Et moi je n'y crois pas une seule seconde à cette déclaration. Et je trouve que c'est encore plus malhonnête du coup.
Ça nécessite une contre-enquête.
Ça nécessite une grosse contre-enquête.
Lise Lucet vient.
Et par ailleurs, je pense qu'il faut arrêter aussi de miser sur le capital humoristique de Jonathan Cohen et Pio Marmaille. Je pense que l'improvisation un peu touche un peu, on arrive à ses limites et je pense qu'il serait temps de donner un vrai texte et un vrai scénario à Jonathan Cohen.
Je me permets, je t'en prie. Parce que, puisqu'on parle effectivement d'un film donc qui s'intéresse à l'écologie et le problème de Toledano et Nakache, c'est aussi on fait un film sur un sujet, mais la fabrication du film n'est pas impactée a priori par le sujet. Moi, j'ai juste un exemple, c'est la dernière action des militants écolos, c'est de faire arrêter un avion. Donc, on est à Roissy et ils sont sur la piste et ils font arrêter un avion. Donc, dans le film, j'ai un avion dont on se dit que déjà pour sortir du garage, il a consommé beaucoup de kérosène. Et que, effectivement, d'un seul coup, c'est quelque chose de très lourd en termes de mise en scène et de mise en place, plus encore que de mise en scène. Et je veux dire, il y a toujours ça. Il y a montrer à quel point on va jouir tous ensemble de la réussite d'une scène. Et moi, ça me fait penser, et là, les deux films pour moi se rejoignent, ça me fait penser à la scène d'ouverture de Samba à l'époque. Hein. Donc, j'en rappelle rapidement. On est dans un grand hôtel parisien, luxueux. Il y a une fête de mariage en costume des années 20, avec 200 figurants à peu près. Et on est dans un plan séquence à la grue. Et donc on démarre dans ce hall d'entrée de l'hôtel avec cette fête et petit à petit on va aller dans les entrailles de l'hôtel et on va aller jusqu'à ce personnage interprété par Omar Sy qui est précaire et immigré clandestin qui fait la plonge. Et là, qu'est-ce qu'on nous montre avant tout ? Alors on pourrait dire, bah effectivement, c'est on montre ce qu'il y a au-dessus dans les premières classes et puis on va dans les soutes. Oui, sauf que ce qu'on montre avant tout, c'est la qualité technique d'un plan. Et on en jouit tous ensemble, spectateurs et réalisateurs, parce que regardez comme on sait le faire. Sauf qu'il n'y a aucune idée de mise en scène derrière et d'écriture cinématographique. Parce que d'un seul coup, ce très beau plan séquence, on pourrait le casser avec un jump cut et au moment où on franchit des portes, justement, des soutes. Et jamais il s'interroge sur ce que c'est qu'écrire une scène. Et je trouve que là, on est face à la même problématique sur cette dernière scène qui en plus est d'une bêtise achevée en termes de dramaturgie, mais je n'en dirai pas plus.
Nul doute qu'Éric Toledano et Olivier Nakache iront planter un arbre histoire de compenser. C'est donc en salle depuis le 18 octobre et nous enchaînons avec un film qui devrait peut-être faire davantage débat. En 2016, Sébastien Lodenbach réalisait son premier long métrage, La jeune fille sans main, lauréat du prix du jury au festival d'Annecy. L'accueil public était discret, mais l'accueil critique enthousiaste. Le voici de retour avec Linda Veu-du-Poulet, qu'il co-signe avec Chiara Malta, sa collaboratrice de longue date sur les courts-métrages de l'un ou de l'autre. De quoi est-il question ? Paulette élève seule sa fille Linda. Injustement punie, celle-ci obtient de sa mère en guise de réparation de manger du poulet au poivron, comme le cuisinait son père, décédé alors qu'elle était âgée d'un an. Mais une grève générale va venir compliquer ce projet. Follement original, nous dit Gilles Tourment dans les fiches du cinéma, d'un humour roboratif, parfois absurde ou onirique, impeccablement rythmé tant par l'action que par les chansons et la tonifiante musique de Clément Ducol. Le film gagne en bonne humeur, ce qu'il a délaissé en poésie et en féerie, mais devrait, pour le coup, s'agréger un public plus jeune. Il établit là, vous l'aurez compris, et quant à l'audience visée, une comparaison avec La jeune fille sans main. Pour ma part, et sans développer plus avant parce que j'ai la flemme, J'ai trouvé le film plutôt réjouissant dans son usage de la couleur, dans ses accents libertaires notamment. J'ai pourtant cru comprendre qu'une sommité du monde de l'animation, dont la vie fait autorité, j'ai nommé Marie-Pauline Mollaret, que je salue, nourrissait quelques réserves sur le film. Est-ce que c'est aussi ton cas, Francis ? Je précise, avant de te donner la parole, que le film est en salle depuis le 18 octobre et qu'entre autres, Méline Leclerc, Clotilde M, Laetitia Doche et Esteban lui ont prêté leur voix. Francis, c'est à toi.
Oui, alors moi je sens que je vais me mettre à dos tout le milieu du cinéma d'animation français. Quand je vois en plus l'appel à aller voir le film, que je comprends hein, sur le principe qu'il y a sur les réseaux sociaux, il faut voir le film quand on est dans le monde du cinéma d'animation, quand soi-même on en fait. C'est le film qu'il faut voir et c'est le film d'animation français de l'année. Donc, je vais tout de suite dire que effectivement, ce qui est toujours merveilleux avec Sébastien Lodenbach, c'est sa constant questionnement sur le médium qu'est l'animation, son constant renouvellement, que ce soit effectivement comme ça sur la réminiscence d'une image comme il faisait dans La jeune fille sans main, sur des plans fixes comme il a pu faire dans un film comme Regardez Oana, des choses qu'on ferait pas forcément en animation, ici attribuer des couleurs à chaque personnage et que donc on ait quelque chose comme ça de très joyeux effectivement et de très lumineux qui est assez magnifique, et puis être capable de très belles séquences presque expérimentales sur fond noir avec juste des lumières et tout. Il y a un éblouissement de la conception de l'animation qui est absolument fantastique. Cela étant dit, j'ai des réserves en fait moi sur le film, sur son écriture. Alors ça, pas les mêmes réserves que Marie-Pauline Mollaret, en tout cas pas sur un point particulier, mais moi je trouve que le film est, contrairement à ce qui est dit partout, très sage. Je trouve que ce film qui à la fin veut donner une sensation d'utopie libertaire où tous les gens de cette cité mangent ensemble le poulet, ça pourrait être autre chose, mais mangent ensemble ce poulet, sont réunis. Elle est un peu factice, alors j'explique pourquoi, c'est pas gratuitement que je dis ça, parce que je pense que avant, et c'est pour ça que je trouve le film sage, le film ne va pas assez loin. Il va pas assez loin puisqu'il se situe dans un contexte de grève générale, tout le monde a fermé. On peut dire que c'est utopique, mais pourquoi pas? Assumons-le. Sauf que la grève est assez peu exploitée dans le film, si ce n'est par une réplique, alors que je m'attendais plutôt à trouver dans un film de Toledano et Nakache, donc du personnage qui est un peu le méchant du film, mais on met des guillemets parce qu'il n'y a pas vraiment de méchant, qui est la sœur de la mère de Linda, donc la tante de Linda, et qui est prof de yoga, donc quelqu'un qui sait respirer, et qui, en arrivant en retard dans son cours, dit « saleté de manif ». Et personne dans le film, à un moment, ou même dans cette scène-là, ne vient contredire cette assertion. Donc ça m'a énormément surpris, parce que je pense que c'est pas l'esprit des auteurs. Après, je dois dire que je trouve le film très sage, parce que je pense que le film devait arriver à la destruction totale de la cité. Et pas une destruction virulente, violente, mais une destruction comme on en a dans la partie de Black Edwards. Tout s'effondre, mais que jamais le film n'ose ça. Alors évidemment, on n'a pas envie, à un moment, ils vont chez une vieille dame, courir après le poulet qui s'est un peu réfugié, qu'on n'arrive pas à tuer. On n'a pas envie pour la vieille dame que son appart soit renversé, foutu en l'air. Mais pour le film, on en aurait envie. Les enfants commencent à faire cuire des poivrons, ils s'absentent tous de la cuisine, ils laissent le gaz allumé. Et puis à un moment, quand même, la petite fille qui habite dans cet appartement revient éteindre le gaz. Les forces de l'ordre arrivent et se retirent sur la pointe des pieds sans que rien se produise entre eux.
Il y a encore des flics sympas à dire.
Oui, voilà, j'avais pas noté celle. Mais pourquoi pas? Mais oui, et évidemment, je suis prêt à le dire même à Radio Libertà. Mais dans le film, il y a rien qui se produit avec eux dans ce contexte de grève générale. Et c'est, moi, j'avoue, c'est ce qui me manque dans le film. Et qui me fait me dire qu'il n'a pas pris en charge l'aspect politique. Et d'accord, c'est un film jeune public, mais on a un film qui est sorti la semaine d'avant, donc le 11 octobre, qui est Nina et le secret du hérisson, de Félicioli et Gagnol, qui sont aussi des gens très attendus dans le cinéma d'animation français. Dans le Félicioli et Gagnol, le fait de se battre faire grève pour sauver son usine, une grève qui finalement évidemment n'aboutit pas, de se retrouver au chômage, tout ça est intégré dans le film et tout ça est vécu au niveau de l'enfant, même si derrière ça donne une histoire policière. Je trouve qu'ils sont passés sur cet aspect-là à côté du sujet, à côté du film. Cela dit, pour rebondir juste sur ce que tu as dit en présentation, effectivement, un autre magnifique élément pour moi du film, c'est la musique de Clément Ducol. Mais Clément Ducol, j'ai toujours eu une fascination pour ce qu'il faisait.
Simon, Margarita. Margarita.
Okay. Bah, moi, j'ai des réserves sur le fait qu'il tue les poulets à la fin, mais sinon... Non, en vrai, sur le moment, enfin, j'avais beaucoup...
C'est quand même pas tout à fait la passion de Dodin Bouffant pour celles et ceux qui auraient la tentation d'aller le voir le mois prochain. Ce n'est pas un carnage carnassier.
Non,
mais
tout à fait.
Effectivement,
non.
Le poulet est tué.
Mais quand même, oui. Voilà. Et non, en fait, moi, j'ai beaucoup aimé surtout le fait que, en fait, il n'y a pas de doublage dans le sens. Je trouve que les sons, les voix, tout est extrêmement vivant et réaliste. Donc, évidemment, on est emporté. Enfin, comme. Dans le sens que ça ajoute beaucoup, parce que par exemple dans La jeune fille sans main, c'était très je trouvais que l'animation était magnifique, mais les voix étaient un peu trop fausses, ajoutaient quelque chose de d'un peu trop théorique en fait à l'histoire, alors que là on est dans l'action, on est dans quelque chose de beaucoup plus qui emporte le public évidemment. Mais en même temps, il y a aussi les styles de dessin de Sébastien Lodemba qui est très, on dirait presque des esquisses, ils sont presque non finis. Et avec ce choix aussi de donner une couleur à chaque personnage, j'ai trouvé que ça donne lieu à des scènes qui sont assez poétiques et visuellement assez touchantes. Mais je suis d'accord avec toi, Francis, sur le fait que, en fait, je trouve que finalement, les films, les grèves restent un peu un thème de fond, mais c'était pas vraiment l'intérêt. Je pense que l'histoire du deuil du père est beaucoup plus importante dans le film, et que finalement, je pense que les auteurs aussi voulaient se concentrer plus sur cet aspect-là. Et donc, je trouve par exemple les scènes, comme tu disais, où il y a le fond noir et l'animation, comme des, où il y a cette apparition du père avec la recette du poulet au poivron. Et je les trouve extrêmement réussies et aussi émouvantes. Mais c'est vrai que, voilà, c'est vrai que du point de vue de la rébellion, il y a cette rébellion des enfants, mais. Je trouve que, en fait, j'avais découvert le film à la reprise de l'acide au Luxor. Et il y avait du coup les réalisateurs qui parlaient et tout. Et ils disaient que pour eux, c'était. Enfin, surtout la réalisatrice Chiara Malta, c'était un film politique justement pour le fait, pas tant pour la grève, mais pour le fait qu'à la fin, on partage ce qu'on a préparé. Et dans ces cas-là, je suis d'accord avec toi, dans le sens que je le trouve un peu facile comme. mais en même temps j'ai quand même beaucoup aimé je trouve que par contre la musique ça m'a pas beaucoup, je pense que les chansons, pas tant pour la musique mais plus pour les paroles, ne sont pas si marquantes que ça, dans le sens que si elle était pas dans le film, je pense qu'elle ajoute pas grand chose à l'histoire, je trouve. Voilà.
C'est bon.
Oui, je vais finir par paraphraser mes camarades. Effectivement, moi j'ai envie de défendre le film quand même. S'il faut choisir, je le défends. Parce que c'est vrai que c'est un projet qui est quand même assez différent de La jeune fille sans main, qui était un peu plus métaphorique, un peu plus poétique, voire un peu insaisissable. Et là, on a quelque chose d'un peu plus concret, marqué dans l'actualité, marqué dans un certain parti pris politique. Et on en discutait après la projection avec Francis. Effectivement, moi j'ai été un peu frustré, un poil déçu par la fin, parce que je m'attendais à une explosion de la cité, parce que la dernière partie se déroule au sein de la cité, et je me suis dit soit on se profile vers une explosion, soit on fait quelque chose comme on va en faire table rase de tout, et finalement on emprunte un chemin un peu plus on va dire un peu plus diplomatique, mais quand même avec un esprit libertaire. J'étais un peu frustré par cette conclusion, mais comme dit Margarita, moi je pense aussi que c'est peut-être qu'il y a un choix qui a été fait, et le choix était peut-être que la question du deuil devait peut-être primer sur la conclusion, peut-être parce que c'est une question qui est un peu plus, si je peux dire ça comme ça, un peu plus accessible, un peu plus compréhensible par le jeune public que les questions politiques. Je sais pas, je me suis interrogé pourquoi la question du deuil primait. Mais c'est un choix que je respecte, même si personnellement j'aurais aimé, parce que là l'animation est très colorée, c'est très vivant, musicalement c'est aussi envolé, et je me suis dit une fin explosive aurait été bienvenue.
Mais enfin, malgré ce que j'ai dit, évidemment je souhaite qu'il arrive le meilleur au film en termes d'entrée, parce que le véritable intérêt, ça va être de voir ce qu'il fait en termes d'entrée, parce que sa proposition d'animation est évidemment complètement différente de tout le cinéma jeune public mainstream, y compris français. Donc bien sûr, pour ça je ne peux qu'avoir envie de porter le film, mais après, comme j'en attends énormément et que Sébastien Lodenbach fait quand même partie des grands auteurs du cinéma à mon sens tout court, j'ai énormément d'attentes aussi par rapport à ce qu'il produit.
Linda veut du poulet, c'est donc d'ores et déjà en salle. Autre grand cinéaste d'animation et au-delà dont il est autorisé à attendre beaucoup. Il y a presque 10 ans, Le Vent se lève avait été présenté comme le dernier film de Hayao Miyazaki. Le voici finalement de retour avec Le Garçon et le Héron, et décidé, semble-t-il, à poursuivre son travail désormais. En quelques mois, après avoir perdu sa mère dans un incendie, Maito, 11 ans, fuit la guerre avec son père et la nouvelle épouse de celui-ci, Natsuko, qui attend un enfant, installé dans un manoir loin de Tokyo. Maito rencontre un héron qui lui dit pouvoir l'aider à retrouver sa mère. Parti à la recherche de Natsuko, qui a disparu, Maito sera entraîné par le héron dans un monde parallèle. Un rêve ponctué de moments poétiques, d'une beauté visuelle éblouissante et parmi les plus fascinants de l'œuvre de Miyazaki. C'est en ces termes, Margherita, que tu évoques le film dans les fiches du cinéma. Plutôt que d'affirmer son caractère de film testamentaire, Le Garçon et le Héron, ajoutes-tu un peu plus loin, ouvre ainsi les portes du possible, comme pour suggérer que la fin de chaque aventure est aussi le début d'une autre, et que s'il ne nous est pas possible de la vivre, nous pouvons toujours l'imaginer. Le film sera en salle à compter de mercredi prochain. Un nouveau Miyazaki, c'est toujours un événement. Celui-ci est-il à la hauteur des attentes, fatalement disproportionné? Je vous pose la question car je sais, Margherita, que tu as par ailleurs quelques réserves sur le film.
Oui, bah alors je trouve que la première partie est très fascinante. Il y a cette séquence où Maito court dans le feu quand il cherche de rejoindre sa mère qui se trouve dans cet hôpital où il y a l'incendie. Et qui est même assez... en fait, elle m'a rappelé un peu le conte de la princesse Kaguya de Isao Takahata, qui est le cofondateur de Ghibli avec Miyazaki. Et en fait, c'est comme si le personnage, finalement, il s'effondre avec les flammes et il devient presque un trait de pinceau. Donc, en fait, je trouve que, en plus, il y a plein de scènes contemplatives dans le début du film que je trouve assez poétiques et touchantes, où on s'arrête sur les plus petits détails, sur les gestes, sur ce garçon qui observe la nature autour de lui quand il arrive dans ce manoir. Et après, l'arrivée de cet héron qui est assez majestueux et qui ensuite révèle un peu des apparences humaines assez affreuse, et donc il y a une créature miyazakienne par excellence. Mais par contre, malheureusement, je pense que dans la deuxième partie, donc dès que le personnage principal il rentre dans ce monde parallèle, il se passe trop de choses en peu de temps. Enfin, c'est comme si d'un côté Miyazaki avait envie de raconter plein d'histoires, de montrer plein de mondes différents. Mais en même temps, on n'a pas assez de temps pour s'arrêter sur chaque petit univers, sur chaque personnage. Donc, et je trouve que c'est un peu dommage parce qu'en même temps, les personnages sont très intéressants et aussi, finalement, ils sont fondamentaux aussi dans le cheminement de Maito. Et donc, du point de vue visuel, je trouve que c'est absolument éblouissant, mais qu'il manque quelque chose dans le récit, dans la deuxième partie. Mais en tout cas, après, il arrive quand même à se rattraper à la fin, parce que je trouve que la conclusion est assez émouvante aussi dans cette idée des portes qu'on ouvre et qu'on peut vivre en même temps, même si on vient d'époques différentes, et donc retrouver les personnes qu'on a perdues ou celles qui ne sont pas encore nées. Et donc, il y a ce monde parallèle, c'est à la fois l'au-delà, mais aussi une sorte d'Éden ou de paradis, en tout cas, où les créatures qui ne sont pas incarnées vivent en attendant de naître. Et donc, je trouve justement que c'est pas un film testamentaire, mais que au contraire, surtout avec la dernière scène, il laisse ouvertes les portes, et du coup c'est un peu comme si Miyazaki disait non mais en fait je suis encore là avec mon crayon en main et je suis prête à vous raconter d'autres histoires.
Simon.
Moi, dans l'ensemble, c'est très dur pour moi de dire du mal d'un film de Miyazaki, mais je dois dire que j'ai un peu les mêmes réserves que Margarita. Effectivement, moi, je pense que la première heure est la plus réussie et la plus belle. Il y a des plages comme ça contemplatives qui sont très 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 belles avec une sorte de silence assez méditatif. Et je trouve qu'on retrouve cette magie du cinéma de Miyazaki, qui est de créer un monde, alors dans l'ensemble inédit, mais avec des motifs et des créatures très miyazakiennes. Donc on est quand même surpris, tout en restant dans un terrain plutôt familier. Et puis les choses se corsent un peu, effectivement, dans la deuxième partie, où moi je trouve que tout s'accélère. Il y a des personnages qui sont introduits assez tardivement, ou alors des nouvelles versions de personnages qui sont introduits tardivement. Et c'est vrai qu'il y a une sorte de trop-plein, d'un tourbillon, qui fait que moi j'ai choisi de lâcher prise. Et forcément, j'ai pas forcément, peut-être pas tout saisi d'un coup. Et à la limite, c'est pas très grave, parce qu'on n'est pas obligé de tout saisir au premier visionnage. Mais j'ai senti une perte d'équilibre, moi, dans l'écriture, qui m'a fait un peu poser des questions, mais ça reste quand même rempli d'idées de cinéma et d'envie de cinéma. C'est-à-dire que c'est vrai que là, on a quand même, je viens de me rendre compte que dans la liste des films qu'on évoque aujourd'hui, il y a quand même trois réalisateurs d'un certain âge, et ces trois réalisateurs qui débordent d'envie et d'idées de cinéma. Et moi, c'est ce que j'ai envie de retenir du Miyazaki, c'est que c'est un film imparfait, mais qui a une envie assez folle de raconter les choses. Et effectivement, ici, c'est pas tellement une question d'une fuite dans l'imaginaire, mais plutôt de composer avec la réalité et l'imaginaire autour de la question du deuil, notamment. Et ça ouvre la porte à plein de références. On pense aussi à ces films, le voyage de Chihiro, dans lequel l'héroïne découvre par un monde imaginaire que ses parents, en fait, sont dévorés par un désir de consommation. Et là, ici, le héros est confronté à la perte de sa mère. Et lui, il doit réapprivoiser son passé, reconquérir son présent. Et le message est très beau. Alors, certes attendu, universel, mais c'est très très beau.
Francis.
Alors ce qui est pas amusant, c'est pas le terme qui convient, mais ce qui est étonnant, c'est que les deux films d'animation finalement dont on parle, bah, la thématique principale, c'est le deuil. Donc d'un seul coup, je découvre ça. C'est une constante entre les deux films, ce qui est assez incroyable. Alors après, bah, par rapport à ce qui a été dit, moi je peux qu'amener de l'eau au moulin et beaucoup d'eau. D'abord parce que effectivement, alors là je suis entièrement d'accord avec Margarita sur le début du film, la scène d'incendie avec ce trait haché, ces couleurs déliquescentes, c'est nouveau chez Miyazaki, quoi. En tout cas, c'est porté complètement. Effectivement, on pense plus à Takahata quand on voit cette scène qu'à Miyazaki, mais c'est d'une beauté plastique et émotionnel incroyable, et on se dit mais pourquoi tout le film a pas été comme ça, quoi. Et revenir après à ce que fait très bien Miyazaki, hein, le très précis, les aplats de couleurs réguliers, c'est très très beau, hein. Mais d'un seul coup on a presque un regret. Après, alors moi je suis un peu plus radical et j'ai pensé à Simon, en fait, quand on m'a demandé mon avis sur le film, j'ai pensé à Simon parce que en fait je crois qu'il y a un problème là en ce moment sur le cinéma d'animation japonais, c'est le recours au fantastique. Qui en fait que le réalisateur évite un peu, à mon sens, son sujet chez Miyazaki ici par rapport au deuil. Moi, je trouve qu'il fait un pas de côté, il ose pas y aller, et ça m'a fait énormément penser à un autre film qui est sorti il y a peu de temps, c'était en septembre. Je vois que Simon voit tout de suite quel film je veux faire allusion. C'est Le Château solitaire dans le miroir de Keiichi Hara. Où là, effectivement, c'est le harcèlement scolaire, et d'un seul coup, là aussi, on passe des portes. Où on ouvre des portes, mais que là aussi, du coup, on est sur un pas de côté par rapport au sujet. Et donc, j'ai eu qu'une envie, c'est de mettre les deux films en parallèle, sachant qu'effectivement, d'un côté, on est face à un génie du cinéma d'animation qui est Miyazaki, bien évidemment, et à côté, un réalisateur très important du cinéma d'animation aussi, qui est Kishihara. Et je m'interroge par rapport à ça. Et puis après, moi, alors, la réserve encore plus conséquente que j'ai sur toute l'épopée fantastique qu'il y a et tout ce qui arrive à Maïta tout au long du film dans Le Garçon et le Héron, c'est que je trouve que c'est, en termes de narration et en termes d'inventivité d'univers, c'est une pâle copie du Voyage de Chihiro, quoi. Comparativement, c'est un gros degré en dessous, quoi. Et ça, je trouve ça dommage. Alors, Simon dit qu'il a lâché prise à un moment. Moi, j'ai juste pas lâché prise. Je me suis dit, quand est-ce que ça finit, quoi? Parce que c'est pas possible d'être sur un décalque aussi appuyé, quoi.
Le Garçon et le Héron, c'est donc en salle à partir du 1er novembre. Je vous propose... Ah oui,
Francis, excuse-moi, tu voulais ajouter quelque chose. Noté avec tout ce qu'on vient de dire, les auditeurs peuvent dès demain à 11h aller au cinéma Le Vincennes à Vincennes, hein, pour voir Le Garçon et le Héron et se faire leur avis.
Excuse-moi. Et ce sera donc, sinon, en salle à partir du 1er novembre. Je vous propose donc que nous fassions à présent une nouvelle pause musicale et on se retrouve dans quelques instants pour la suite et la fin de cette table ronde consacrée à l'actualité des sorties en salle.
Open mic, Eric Sermon, and I'm young PMD. Plus, I DJ like Evil D. I don't bang, but still it's Playboy PBG. I got fans like R. Kelly, please pee on me. I'm solo now, bow to the new King Young Z. I dropped the 12 disciples, they try and eat for free. We want the cash and the Beamer keys. I stuffed the eagle in your fucking niece's teeth. Bricks, we leave people 6 feet beneath. My knife sharp as the claw on the eagle's feet. I had guns that sweep the street before Keith was chief. I play Osley's between the sheets at a meet and greet. And Tina Marie, please don't try me, please. I'll get shot with IEDs. Bang!
Hey, 1-2, check 1-2. Wishing that they want to. 1-2, yeah. Yeah, we bumped the outhouse demos, singing out of townhouse windows. Amps pacing for blood circulation, it's outside shot. I grew up percolating, doing footwork impersonations, and got busy. The TV was fuzzy, the channel was not Disney. Snare trapped like a car grizzly, caught hell like a launch frisbee. Used to eat a catfish, dig bees, little eagle in the big city. I made a count like this many, I'm in a fountain trying to pinch pennies. We had to run, it was unfriendly, stuck out a tongue like come get me. Summer sun, she was mad pretty, watching the bootlegger have plenty. This BT's Rap City, and shout to Z for going back with me. 1-2, 1-2, yeah.
Wishing that they were all.
De retour sur Radio Libertaire, vous écoutez longtemps, je me suis couché de bonne heure. Thomas Fou au micro, nous évoquions en rentable avec Margherita la bonne ou mauvaise santé du cinéma italien contemporain. Nous sommes en compagnie donc de Margherita, de Simon, de Francis Gavel, la rédaction des Fiches du Cinéma, donc, et pour cette table ronde consacrée à l'actualité des sorties en salle. Et nous écoutions donc à l'instant Bette's Rap City de Open Mike Eagles, à retrouver sur l'album Another Triumph of Ghetto Engineering. Depuis 20 ans, Marco Bellocchio tient une forme olympique. et signe tardivement certains de ses plus beaux films, citons notamment Buongiorno Notte, Vincere ou encore Le Traître. Vieil habitué de la compétition officielle à Cannes, il y faisait cette année son retour avec L'Enlèvement, autour d'un sujet longtemps envisagé puis abandonné par Spielberg, soit l'histoire vraie en 1858 d'Edgardo Mortara, enfant juif enlevé de force à sa famille sur l'ordre du cardinal Antonelli et élevé en catholique pour avoir été baptisé clandestinement par sa nourrice. C'est également l'occasion pour Bellocchio de balayer une page d'histoire, en l'espèce l'unification de l'Italie, et d'évoquer l'éternel antisémitisme, ce qui me paraît être toujours essentiel. Au casting, dans le rôle d'Edgardo, enfant puis jeune adulte, Enea Sala, puis Leonardo Maltese, dans le rôle de Pineuf, l'affreux, Paolo Pierobon, et pour interpréter les parents d'Edgardo, Fausto Russo Alessi et Barbara Ronchi. Le film sera en salle à compter de mercredi prochain. À qui est-ce que je donne le micro ? Margarita, Simon, vous avez vu le film tous les deux. Ah bah débrouillez-vous.
Moi, je peux commencer si tu veux. oui, moi, dans l'ensemble, j'ai trouvé que c'était un très beau film, comme souvent avec Bellocchio. Alors, peut-être la réserve que j'aurais, c'est effectivement quand on regarde L'Enlèvement, on se dit tiens, c'est un peu plus classique, c'est un peu plus posé, c'est un peu plus, voire un peu plus mineur que ses précédentes réalisations. Mais le cinéma classique par Bellocchio, ça reste quand même un très beau cinéma, jamais démonstratif, rarement illustratif. Ça va droit au but. Encore une fois, je trouve qu'il y a une manière de tenir son récit et de tenir ses images assez exemplaire, et même si le film suit une direction assez linéaire, assez sage, il y a parfois des fulgurances. Moi, je trouve qu'il y a quand même deux ou trois scènes qui sont magnifiques.
Une scène de Christ en croix, par exemple.
Entre autres, une scène de retrouvailles entre la mère et son jeune enfant qui finit par craquer. Parce que pris en étau entre
son ancienne famille et sa nouvelle religion,
cette peur de finir dans les limbes, la question de la foi intime est quand même assez bouleversante quand elle est traitée à hauteur d'un enfant, puis d'un adolescent, puis d'un jeune adulte. Et il y a encore une scène aussi magnifique à la fin, notamment le cortège funéraire du pape Pie IX et cette révolte de la foule. Et oui, il y a des images comme ça assez saisissantes. Alors, on aurait aimé que le film soit saisissant du début jusqu'à la fin, donc ce serait ma petite réserve, mais ça reste un très beau film, oui.
Margarita.
Oui, je suis d'accord avec toi dans le sens que j'ai bien aimé le film, mais je trouve que parfois il est un peu trop explicatif et un peu trop lié à l'histoire de cette époque-là, alors que le thème quand même, il s'est prêté bien pour évoquer des problèmes qui existent toujours en Italie. Et du coup, je trouve que c'est pas assez courageux de la part de Bellocchio, ce film. Et donc, et parfois presque trop scolaire, dans le sens que, on a ces didascalies qui expliquent exactement qu'est-ce qui se passe, qui évoquent les faits historiques, et qui enlèvent, selon moi, un peu de profondeur à l'histoire. Mais je suis d'accord avec toi qu'il y a plein de scènes qui sont magnifiques et avec des idées de mise en scène qui fonctionnent très bien. Mais voilà, et aussi par exemple le pape, je trouve que parfois il est un peu trop sous-joué, un peu trop il y a des scènes qui sont un peu trop emphatiques et qui me rappellent un peu une certaine vague de cinéma italien de ce moment dont j'aime pas trop le jeu des acteurs, mais bon, là c'est peut-être un avis très personnel.
Merci à tous les deux. L'Enlèvement, c'est donc... Oui, Francis, tu voulais nous préciser qu'il y avait aussi un événement, une avant-première.
Il y a aussi une avant-première aujourd'hui.
Une célébration de Marco Bellocchio.
Voilà, aujourd'hui, c'est ma journée avant-première. Hein, excuse-moi.
Ouais, je t'en prie.
On retourne au cinéma Le Vincennes. Demain, vous voyez Le Garçon et le Héron. Et mardi 31, donc la veille de la sortie, à 18h50, vous pouvez découvrir le Bellocchio, nourri par tout ce qu'on vous a dit sur le film.
Et je précise que le même jour, le 1er novembre, mercredi prochain, sortira également, quoique plus discrètement, un autre film de Bellocchio, Marx peut attendre, documentaire dans lequel il revient sur le suicide en 1968 de son frère jumeau. L'ami Clément Deléchaud, spécialiste de Bellocchio, je lui passe le bonjour, vous en dira le plus grand bien dans les fiches du cinéma du mois prochain. Vous pourrez également retrouver un bref entretien avec le cinéaste, réalisé par notre correspondante romaine, Maria Grazia Perulli. Et nous en venons sans transition au dernier film de notre table ronde, un film auquel pour ma part je ne m'attendais pas, mais je précise que la surprise est heureuse, en l'occurrence les trois premières parties, car la quatrième est sur le feu, du documentaire au long cours que consacre Mathieu Amalric à son ami John Zorn depuis 2010. En effet, le cinéaste filme régulièrement le musicien en concert, en répétition à Paris, à New York et dans bien d'autres endroits. Il en ressort un film très prosaïque, très attentif aux gestes et qui dit toute la difficulté et toute la joie aussi, surtout même du travail collectif à plus forte raison, mais au service parfois d'une conception presque magique de la musique. Vous avez insufflé la vie dans le golem, dit Zorn aux musiciens qui l'accompagnent à l'occasion d'une répétition. Si les deux premières parties filmées entre 2010 et 2018 agglomère différentes créations en un kaléidoscope de la musique du New-Yorkais, du jazz au noise rock, en passant par le klezmer et la musique contemporaine, la troisième s'intéresse exclusivement à sa collaboration avec Barbara Hannigan, soprano et chef d'orchestre canadienne, à qui il avait proposé de créer sur scène Joumala Tarrête, je savais bien que j'allais fourcher sur ce mot, composition piano-voix de 25 minutes. Barbara Hannigan, qui se trouve être par ailleurs la compagne de Mathieu Amalric, en vertu de quoi il se dégage de cette troisième partie, par ailleurs plutôt austère dans ce qu'elle donne à voir, un sentiment d'intimité, et ce, de chaque côté du micro ou de la caméra, une relation tripartite de travail et d'affection qui fait plutôt plaisir à voir. Les trois films avaient déjà été montrés séparément à l'occasion de concerts ou d'événements consacrés aux musiciens. Pour la première fois, ils sont donc visibles les uns à la suite des autres. Zorn, partie 1, 2 et 3, c'est donc à découvrir à partir de la semaine prochaine, dans un nombre restreint de salles probablement, d'autant plus que le film dure pas moins de 3h10, mais peut-être Francis aura-t-il une avant-première à vous communiquer. Ne tardez donc pas trop, si d'aventure nous vous avons donné envie de vous faire votre propre idée, sera-ce le cas, madame, messieurs, et je vais me tourner vers toi d'abord, Francis.
Tiens, pourquoi?
Mais parce que je crois que tu as beaucoup aimé ce film. Tu laisseras évidemment un petit temps de parole.
Oui, oui, non, mais après, je vais effectivement pas dire tant de choses que ça, mais c'est vrai que ça a été une matinée de projection au Reflet Médicis, où projection de presse, où nous n'étions que 6 personnes dans la salle. Bon, alors effectivement, le film est très long, 3h13 sur John Zorn, faut avoir envie, donc demande de dégager du temps, et peut-être pas le film le plus attendu des sorties. Mais justement, un film qui me paraît passionnant. Alors, il y a deux personnes face à face. D'un côté, il y a Mathieu Amalric, donc je m'étais permis de dire en 2021 que c'était ce qui était arrivé de mieux au cinéma français depuis longtemps. À l'époque, il avait sorti son film Serre-moi fort, et il participait au film des frères Larrieux, Tralala, donc ça me suffisait à penser que. Voilà.
Je peux être en accord avec toi sur ce point.
Voilà, et puis là, en face, il y a John Zorn. Alors, John Zorn, moi, j'avoue que pour moi, jusqu'à présent, c'est un musicien très théorique, un musicien de l'avant-garde, expérimentateur, que ce soit en musique classique, en jazz ou en rock. Donc, je me sentais quand même peut-être un petit peu loin. Je me disais, il faut des portes pour y accéder, quoi. C'est pas l'évidence même, quoi. Mais voilà, mais je restais très curieux. Et ce qui rejaillit dans le film, c'est le contraire du musicien théorique, quoi. C'est quelqu'un qui a un appétit musical incroyable, qui est un gargantua de la collaboration. Il veut travailler avec tout le monde. Et je trouve que c'est ce que le film de Mathieu Amalric capte magnifiquement. Et quand je parle évidemment de captation, c'est vrai que comme tu le disais, ça s'échelonne entre 2010 et 2022. Et je parle de captation parce que j'ai vraiment l'impression que dans un premier temps, il capte, il essaye de se mettre dans l'endroit où il gêne le moins, se faire le plus discret possible, et que plus on avance, plus leur relation s'étoffe, et plus on avance dans le fait de le filmer, plus Mathieu Amalric prend sa place, et prend sa place de cinéaste en osant bouger, et c'est évidemment très flagrant dans la troisième partie, cette partie pratiquement, effectivement, uniquement consacrée à la répétition entre Barbara Hannigan et Stephen Gosling, qui est le pianiste de la pièce, où, il s'installe. Il va bouger pendant qu'il travaille, il va oser aussi, et ça, il explique très bien qu'au début, il avait un petit peu peur de ça, mais il va oser faire une séquence de 30 minutes sur la répétition. Et ce qui est assez, d'ailleurs, amusant dans cette troisième partie, c'est que d'un seul coup, on voit surtout la répétition. On a l'impression pratiquement d'être chez Frédéric Wiseman quand il fait Opéra ou Crazy Horse. Mais Wiseman, à la fin, nous montre l'œuvre sur scène. Et là, on a juste un plan depuis les coulisses. Et donc, on n'a jamais l'œuvre dans son audition définitive, ce qui est à la fois frustrant et très amusant. Et mais en même temps, une fois que j'ai dit ça, je pense que le cinéma s'invite quand même déjà dès la première partie de la trilogie, et notamment, je pense, avec cette très très belle séquence pour moi autour donc d'une pièce pour violon et violoncelle qui s'intitule Freud, et une pièce qu'on voit d'abord en répétition comme pratiquement tout le temps, et puis après on assiste à la représentation qui a l'air d'avoir lieu dans un loft à New York, quelque chose de très hype, en même temps un télo et tout. Et d'un seul coup, Amalric fait un parallèle avec une déambulation dans Tokyo, si je ne dis pas de bêtises, en tout cas une déambulation japonaise, et garde la musique de Freud par-dessus. Et d'un seul coup, il y a une espèce de saisissement cinématographique qui s'opère et que je trouve absolument magnifique. Voilà, je ne dirai que ça et je te promets, j'ai une avant-première et plein de choses après.
Margarita, Simon, qui veut en dire un mot ?
Et oui, bah, je trouve que le documentaire est un peu à l'image de la musique de John Zorn, dans le sens que Amalric, il expérimente plusieurs choses. Enfin, il insère des images qui apparemment n'ont pas vraiment de lien entre eux. Enfin, surtout au début et à la fin des trois parties qui composent le film. Mais je pense que le tout est assez fascinant et il y a une immersion dans l'œuvre de John Zorn qui révèle aussi sa personnalité. Donc, comme tu disais, en fait, on peut avoir l'impression à travers sa musique de rester quand même très loin de lui, de son travail. Mais avec ce film, je trouve qu'à la fin, on le connaît. Enfin, on connaît ses expressions, ses tics, ses... Donc voilà, enfin, j'ai trouvé ça assez intéressant et j'ai beaucoup aimé surtout le 13e volet avec Barbara Hannigan, du coup, avec ses répétitions, avec les jardins derrière, ces théâtres incroyables que je ne sais plus où c'est, mais j'aimerais bien y aller. Et donc voilà, et cette idée aussi de la recherche de la perfection dans une œuvre qui en soi est imparfaite parce que. Elle est créée avec plein de sons différents, mais il y a quand même cette volonté de la chanteuse de trouver une sorte de perfection qu'elle n'arrive pas à retrouver. Donc je trouve très passionnant aussi les échanges entre elle et John Zorn.
Cette tension qui traverse le film entre la composition, la chose écrite et l'improvisation, comment mêler et articuler l'un et l'autre. Simon.
Oui, c'est vrai qu'on a l'impression d'avoir été en intimité avec un génie créatif pendant 3 heures. Et c'est vrai que le travail de... Amalric est assez formidable dans le sens où il s'inscrit un peu à rebours des documentaires musicaux un peu plus traditionnels. Là, il y a quelque chose de vraiment très, très construit autour du travail préparatoire, autour des négociations, des compromis que ça implique entre les artistes. Aussi, l'importance parfois de l'instinct musical aussi qui fait la différence. Et c'est assez fascinant, même si on n'est pas forcément familier avec l'artiste, je veux dire, de base. Voilà, on est comme cette caméra de Mathieu Amalric qui s'infiltre, qui s'immisce un peu, timidement invité et qui, comme tu disais, Francis, au fil des images, en fait, prend plus de place et s'installe vraiment et s'assume vraiment. Il y a vraiment une progression de la réalisation, il y a une progression de l'histoire. Et effectivement, je vais pas être très original. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi la troisième partie que je trouve assez fascinante. Et là encore, il y a même dans un dispositif plus ou moins, on va dire, simple et resserré, c'est-à-dire entre effectivement les répétitions. La manière qu'il a de raconter et de traduire les doutes que Barbara Hannigan éprouve dans la préparation de la pièce, c'est Jumal à Taret, c'est ça ?
Je ne te le fais pas dire.
Je veux pas écorcher les noms. Et il y a des moments comme ça un peu malins où, par exemple, quand la première fois qu'elle exprime ses doutes et ses réticences, Mathieu Amalric décide de lire un mail qu'elle envoie à Zorn, et je trouve ça assez malin parce que ça, c'est une manière de contourner un peu les dispositifs un peu plus classiques qui est de faire parler la personne face à la caméra ou plutôt que de faire intervenir la voix off du réalisateur. Là, il lit une relation presque épistolaire et tout en même temps que les images continuent de défiler, la musique continue d'arriver. Et voilà, il y a des choix, il y a une construction que je trouve assez intelligente, mais aussi très émotionnelle. Quoi. C'est pas que théorique, il y a quelque chose, on sent qu'il y a un affect derrière et c'est assez fort. Mais comme toujours avec Amalric, enfin, moi je trouve que toutes ces réalisations sont formidables.
C'est donc à découvrir en salle à compter du 1er novembre. Francis, une information à communiquer avec vous ?
Une information, puis une dernière chose à dire quand même pour les auditeurs, c'est que c'est vraiment un film qui rentre en intimité avec le spectateur aussi, moi je trouve. D'abord parce qu'on y voit, sur toute cette période, une amitié qui grandit, et puis que le cinéma aussi accompagne quelque chose qui est important, c'est le vieillissement. Et on voit John Swan vieillir, et je trouve que c'est aussi fascinant et fabuleux. Donc oui, la trilogie Swan, eh bien on pourra...
Est-ce que ce sera au cinéma le Vincennes ?
Pas du tout, ce sera au Méliès à Montreuil, je serai parti.
Je sais que tu traînes tes guêtres régulièrement.
Oui, mais je me suis réparti entre deux salles. Ce sera au Vincennes, c'est mardi 31 à 19h, en présence de Mathieu Amalric.
Ah.
Voilà, donc ça, c'est important, parce que effectivement, il peut y avoir quelque chose d'intéressant dans cette rencontre. Et plus important encore, si on veut prolonger et là découvrir plus amplement John Swan, il y aura un concert le 1er novembre à 20h à la Philharmonie. Un concert avec Barbara Hannigan et Stephen Gosling, entre autres. Et là, on pourra entendre la pièce donc, qui est adaptée d'une légende finlandaise dans son intégralité. Donc, je me dis qu'on peut voir le film et après aller au concert. Et on a un total Swan, quoi.
Merci. J'en viens donc à présent à mon moment préféré de l'émission, celui où nous ne sommes pas obligés de parler de cinéma. Margarita, Simon, Francis, qu'avez-vous à cœur de partager avec nos auditeurs ? Un livre, un album, une exposition, l'adresse d'un site pour pirater la Première Ligue ou peut-être une solution de paix ? Oui, le samedi matin, je suis parfois chagrin. C'est à vous qui veut ouvrir le bal.
Moi, je peux commencer si vous voulez, parce que du coup, pour une fois, je suis resté au cinéma. Je suis vraiment désolé. Je lis pas beaucoup, pas j'écoute pas de musique en ce moment, donc du coup, il ne me reste que le cinéma.
Faut pas dire ça d'un air désolé.
Prochainement va sortir un film d'animation de science-fiction de Jérémy Perrin, Mars Express, que j'ai envie de conseiller, ne serait-ce parce que je trouve que l'animation SF française est suffisamment rare pour la souligner. C'est un projet dans l'ensemble que je trouve réussi, avec des questions encore une fois très actuelles dans le cinéma de science-fiction, la cybernétique, l'intelligence artificielle. C'est assez ambitieux dans la forme, donc j'ai envie de conseiller cette sortie.
C'est une émission spéciale Mathieu Amalric, là, c'est pas possible, puisqu'il fait une des deux voix, quand même, on va dire, dans Mars Express.
Mais c'est toujours un plaisir de parler du travail de l'excellent.
On a un partenariat avec Mathieu Amalric.
Margarita.
Bah, je vais te décevoir aussi. Parce que
le
mais c'est un court métrage, donc.
Non. C'est mieux. Personne ne le verra.
Voilà, exactement. Donc, je voudrais bien en parler. Il s'appelle Margaret 89 de Luca Malbran. Et c'est un court-métrage qui parle de cette Margaret, qui est une jeune punk contestataire du régime est-allemand, qui est internée dans un hôpital psychiatrique et qui tente de s'enfuir pour rejoindre son copain, qui, quand même, il est un collaborateur de la Stasi. Donc, il y a une histoire aussi d'amour et de trahison, un peu comme dans Killers of the Flower Moon. Mais. En fait, c'est entièrement réalisé avec des feutres, donc ça donne un aspect presque enfantin à l'animation. Alors que j'ai beaucoup aimé ce contraste avec l'histoire, et en même temps, les décors sont très géométriques, très presque. Enfin, il décrit bien cette sensation de contrainte, d'oppression, alors que l'animation des personnages arrive à décrire leurs sentiments et leur fragilité. Donc voilà, je vous conseille de le voir, il est visible sur le site de Arte.
Merci Margarita, merci Simon. Chères auditrices, chers auditeurs, nous nous retrouvons donc le mois prochain. Je vous souhaite un excellent week-end. Francis, je te rends l'antenne, et si tu le souhaites, évidemment, profites-en pour partager ton coup de cœur du mois. Peut-être s'agit-il simplement de l'album du mois, ou peut-être as-tu pensé à quelque chose d'autre.
Non,
quoi qu'il en soit, c'est à toi.
Merci Thomas, merci Simon, merci Margarita. Non, je vais rester sur l'album du mois, sur le California de Dreaming de Julien Bodiment, parce que comme j'avais rien préparé, ce sera un petit peu fourre-tout et j'aime pas. Donc on va écouter donc un deuxième extrait comme j'avais promis, alors dans une ambiance évidemment, comme j'avais dit, radicalement différente, puisque là donc c'est un morceau composé par Hans Eisler entre 1942 et 1943, qui est issu de son Hollywood Songbook, qui était au point de départ un recueil de mélodies pour chanteurs baryton et piano. ici donc transposé pour flûte, et comme je le précisais, donc dit Amker, qui est un peu le retour au pays, raconte effectivement un retour démuni d'un exilé dans une ville sous les bombardements et les incendies. Voilà, donc c'est un morceau très court, mais très très beau, et c'était une manière de montrer que ce disque de Julien Baudiman va vraiment passer par des moments, des expressions, des tonalités différentes et des humeurs différentes. Voilà, un California Dreaming qui passe du sombre à la clarté. C'est trop beau. Voilà, vous êtes donc sur l'antenne de Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste. C'était Longtemps je me suis couché de bonheur, une émission proposée par Francis Gavel, présentée par Thomas Fouet et Francis Gavel, réalisée par Erwan Charton. On se retrouvera pour de nouvelles aventures le 25 novembre. On va encore se prendre la tête pour savoir quel film on peut bien choisir dans tout ce qui sort. C'est ce qu'on essaye de faire en vous proposant des choses vraiment diverses et variées. En tout cas, j'espère qu'on y réussit. Voilà, et donc on se quitte et on vous souhaite une bonne journée à l'antenne de notre station avec ce nouvel extrait du disque de Julien Baudiman, California Dreaming, et le titre donc c'est The Amker, qui est une composition de Hans Eisler.
Chacun étouffé dans son coin, chacun avait son chacun étouffé tranquillement. Moi, monsieur, tranquillement, je me suis étouffé comme ça, ou plutôt, je me rate.
Fugir, ninguém. por então, enquanto eu puder cantar, enquanto eu puder sorrir, ninguém vai me ver sofrer, ninguém vai me surpreender na noite da solidão. Pois quem tiver nada pra perder vai formar comigo um imenso cordão. E então quero ver o vendaval, quero ver o carnaval sair. Ninguém vai me acorrentar enquanto eu puder cantar, enquanto eu puder sorrir, enquanto eu puder cantar. Alguém vai ter que me ouvir enquanto eu puder cantar, enquanto eu puder seguir, enquanto eu puder cantar, enquanto eu puder sorrir, enquanto eu puder cantar, enquanto eu puder.
Sans feu ni lieu, on pourrait l'appeler l'auberge du bon Dieu. S'il n'en existait déjà une, la dernière où l'on peut entrer sans frapper, sans montrer patte blanche, hanche. Chez Jeanne, la Jeanne, on est n'importe qui, on vient n'importe quand. Et comme par miracle, par enchantement, on fait partie de la famille. Dans son cœur, en se poussant un peu, reste encore une petite place. La Jeanne, la Jeanne, elle est pauvre et sa table est souvent mal servie.